Chapitre 1. Dans ce charmant district de la joyeuse Angleterre, qu'à Rose le donne, s'étendait, au jour reculé, une vaste forêt qui couvrait la plus grande partie des montagnes pittoresques et des riches vallées qui se trouvent entre Sheffield et la gracieuse ville de Doncaster. Les restes de ces bois immenses sont encore visibles aux environs du beau château de Wentworth, du parc de Warncliffe et autour de Rotherham. Là, autrefois, revenait le dragon fabuleux de Wantley. Là furent livrées plusieurs des batailles désespérées qui ensanglantèrent les guerres civiles des Deux Roses. Là encore fleurirent, aux anciens jours, ces troupes de vaillants outlaws dont les actions ont été popularisées par les ballades anglaises. Cette localité était celle où se passe notre scène principale. Consignons que la date de notre histoire se rapporte à une époque qui touche à la fin du règne de Richard Ier, lorsque le retour de sa longue captivité était devenu un événement plutôt désiré qu'attendu par ses sujets désespérés, lesquels, pendant cet interrègne, étaient assujettis à toute espèce d'oppression secondaire. Les seigneurs, dont le pouvoir était devenu insupportable pendant le règne d'Étienne et que la prudence de Henri II avait à peine réduit à une espèce d'inféodation à la couronne, avaient maintenant repris leur ancienne licence dans toute son étendue, méprisant la faible intervention du Conseil d'État d'Angleterre, fortifiant leur château, augmentant le nombre des gens qui relevaient d'eux, réduisant tout ce qui les entourait à une sorte de vassalage et s'efforçant, par tous les moyens possibles, de se mettre chacun à la tête de forces suffisantes pour jouer un rôle dans les convulsions nationales qui semblaient imminentes. La position de la petite noblesse, ou des Franklins, comme on disait alors, qui, d'après la loi et l'esprit de la Constitution anglaise, avait le droit de se maintenir indépendante de la tyrannie féodale, devenait maintenant plus précaire que jamais. Il est vrai que si, comme il arrivait habituellement, ils se mettaient sous la protection d'un des petits tyrans de leur voisinage, qu'ils acceptassent des charges dans son palais ou s'obligeassent par des traités mutuels de protection et d'alliance à le soutenir dans ses entreprises, il est vrai, disons-nous, qu'ils pouvaient jouir d'un repos temporaire. Mais ce devait être par le sacrifice de cette indépendance, qui était si chère à tous les cœurs anglais, et en courant le hasard d'être enveloppé comme partisan dans toute expédition, si téméraire qu'elle fût, que l'ambition de leur protecteur le poussait à entreprendre. D'un autre côté, les moyens de vexation et d'oppression que possédaient les grands barons étaient si étendus et si multiples que jamais ils ne manquaient ni de prétexte ni de volonté pour poursuivre, harasser, pousser enfin aux dernières limites de la destruction ceux de leurs moins puissants voisins qui tentaient de se dégager de leur autorité, se reposant pour leur salut pendant les dangers du temps sur leur conduite inoffensive et sur les lois du pays. Une circonstance qui tendait surtout à rehausser la tyrannie de la noblesse et à doubler les souffrances des classes inférieures, dérivait particulièrement de la conquête de Guillaume, duc de Normandie. 4 générations s'étaient succédées et avaient été impuissantes à mélanger le sang hostile des Normands et des Anglo-Saxons, et à réunir par un langage commun et des intérêts mutuels deux races ennemies, dont l'une éprouvait encore l'orgueil du triomphe, tandis que l'autre gémissait sous l'humiliation de la défaite. Le pouvoir avait été complètement remis aux mains de la conquête normande, par l'événement de la bataille d'Hastings, et on l'avait appliqué, comme nous l'assure l'histoire, avec une main immodérée. Toute la race des princes et des seigneurs saxons était, à peu d'exceptions près, extirpés ou déshérités, et le nombre de ceux qui possédaient des terres dans le pays de leurs ancêtres, comme protecteurs de la seconde classe ou des classes inférieures, était extrêmement restreint. la politique royale avait eu longtemps pour but d'affaiblir par tous les moyens légaux ou illégaux la force de cette partie de la population, que l'on considérait à juste titre comme entretenant un sentiment de haine invétéré contre le vainqueur. Tous les souverains de la race normande avaient témoigné la partialité la plus marquée pour leurs sujets normands. Les lois de la chasse, et beaucoup d'autres, que l'esprit plus doux et plus libre de la constitution saxonne ignorait, avaient été fixées comme un joug sur le cou des habitants subjugués, surcroît féodale, des chaînes dont ils étaient chargés. À la cour, ainsi que dans les châteaux des grands seigneurs, où la pompe et le cérémonial de la cour étaient imités, la langue franco-normande était la seule en usage. Dans les tribunaux, les plaidoyers et les arrêts étaient prononcés dans la même langue. Bref, le franco-normand était la langue de l'honneur, de la chevalerie et même de la justice. Tandis que l'anglo-saxon, si mâle et si expressif, était abandonné à l'usage des paysans et des serfs, qui n'en savaient pas d'autre. Peu à peu, cependant, la communication obligée qui existait entre les maîtres du sol et les êtres inférieurs et opprimés qui cultivaient ce sol avait donné lieu à la formation d'un dialecte composé du franco-normand et de l'anglo-saxon, dialecte à l'aide duquel ils pouvaient se faire comprendre les uns des autres, et de cette nécessité se forma graduellement l'édifice de notre langue anglaise moderne, dans laquelle l'idiome des vainqueurs et celui des vaincus se trouvent confondus si heureusement, et qui a été si heureusement enrichi par des emprunts faits aux langues classiques et à celles que parlent les peuples méridionaux de l'Europe. J'ai jugé à propos d'exposer cet état de choses pour l'instruction du lecteur peu familiarisé avec cette époque, lequel pourrait oublier que, bien qu'aucun événement historique, tel que la guerre ou même l'insurrection, ne marqua, après le règne de Guillaume II, l'existence des Anglo-Saxons comme peuple à part. Néanmoins, les grandes distinctions nationales qui existaient entre eux et leurs conquérants, le souvenir de ce qu'ils avaient été autrefois et la conscience de leur humiliation actuelle continue, jusqu'au règne d'Édouard III, à tenir ouvertes et saignantes les blessures infligées par la conquête, et à maintenir une ligne de démarcation entre les descendants des Normands vainqueurs et des Saxons vaincus. Le soleil se couchait sur une riche et gazonneuse clairière de cette forêt que nous avons signalée au commencement de ce chapitre. Des centaines de chênes aux larges têtes, aux troncs ramassés, aux branches étendues, qui avaient peut-être été témoins de la marche triomphale des soldats romains, jetaient leurs rameaux robustes sur un épais tapis de la plus délicieuse verdure. Dans quelques endroits, ils étaient entremêlés de hêtres, de houx et de taillis de diverses essences, si étroitement serrés qu'ils interceptaient les rayons du soleil couchant. Sur d'autres points, ils s'isolaient, formant ces longues avenues dans l'entrelacement desquelles le regard aime à s'égarer, tandis que l'imagination les considère comme des sentiers menant à des aspects d'une solitude plus sauvage encore. Ici, les rouges rayons du soleil lançaient une lumière éparse et décolorée qui ruisselait sur les branches brisées et les troncs moussus des arbres. Là, ils illuminaient en brillantes fractions les portions de terre jusqu'auxquelles ils se frayaient un chemin. Un vaste espace ouvert, au milieu de cette clairière, paraissait avoir été autrefois voué au rite de la superstition des druides, car, sur le sommet d'une éminence assez régulière pour paraître élevée par la main des hommes, il existait encore une partie d'un cercle de pierres rudes et frustes de colossales proportions. 7 de ces pierres se tenaient debout. Les autres avaient été délogées de leur place, probablement par le zèle de quelques convertis au christianisme, et gisaient, celles-ci renversées près de leur premier site, celles-là poussées jusque sur la déclivité de la colline. une grande pierre avait seule glissé jusqu'à la base de l'éminence, et en arrêtant le cours d'un petit ruisseau qui coulait doucement à ses pieds, prêtait, par l'obstacle qu'elle lui opposait, une voix faible et murmurante à ce paisible courant, silencieux partout ailleurs. Les créatures humaines qui complétaient ce paysage étaient au nombre de deux, et s'harmonisaient, par le costume et l'aspect, avec le caractère âpre et rustique appartenant aux forêts du West Riding, du côté d'York, à cette époque reculée. Le plus âgé des hommes avait l'apparence sombre, sauvage et féroce. Son habit était de la forme la plus simple qui se puisse imaginer. C'était une veste collante avec des manches. Cette veste était composée de la peau tannée de quelque animal, sur laquelle les poils avaient d'abord subsisté, mais avaient été depuis usés en tant d'endroits qu'il eût été difficile de dire, par les échantillons qui en restaient, à quel animal cette fourrure avait appartenu. Ce vêtement primitif s'étendait du col au genou et remplaçait tout autre vêtement. La seule ouverture qu'il eut, à l'extrémité supérieure, était juste assez large pour laisser passer la tête. Donc, on peut en déduire qu'on le passait comme on passe aujourd'hui une chemise et comme on passait autrefois une cotte de maille, c'est-à-dire par-dessus la tête et les épaules. Des sandales, assurées par des courroies de peau de sanglier, protégeaient les pieds, et deux bandes de cuir minces et souples se croisaient sur les jambes, en montant seulement jusqu'au haut du mollet, laissant les genoux à découvert, comme le sont ceux d'un montagnard écossais. Pour rendre la veste encore plus juste, elle était serrée à la taille, par une large ceinture de cuir fermée par une boucle de cuivre. À l'un des côtés de cette ceinture pendait une espèce de panier, à l'autre une corne de bélier, ayant une embouchure par laquelle on soufflait. Enfin, dans la même ceinture, était passé un de ces couteaux, long, large, aigu, à deux tranchants et à manche de corne de daim, que l'on fabriquait dans le voisinage, et qui était connu dès cette époque sous le nom de couteau de Sheffield. L'homme portait la tête nue et n'avait pour la défendre que son épaisse chevelure, dont les touffes, emmêlées et rougies par le soleil, retombaient couleur de rouille sur ses épaules et formaient un contraste avec sa barbe épaisse et longue qui avait la couleur de l'ambre jaune. Une partie de son costume nous reste encore à peindre, car elle est trop remarquable pour être oubliée par nous. C'était un collier de cuivre, ressemblant à celui d'un chien, mais sans aucune ouverture et fortement soudé à son cou, assez large pour n'apporter aucune gêne à la respiration, et cependant assez serré pour qu'on pût l'enlever sans employer la lime. Sur ce singulier gorgerin était gravée en caractère saxon une inscription conçue à peu près en ces termes. Gurt, fils de Beowulf, serf né de Cédric de Rotherwood. Outre le porcher, car c'était là l'état de Gurt, on voyait, assis sur un des monuments druidiques gisant sur le sol, un personnage qui paraissait avoir 10 ans de moins que son compagnon. Son costume, bien que se rapprochant de celui de Gurt par la forme, se composait de meilleurs matériaux et présentait un aspect plus fantastique. Sa veste avait jadis été teinte en pourpre vif, et sur cette veste, on avait essayé de peindre certains ornements grotesques de diverses couleurs. Outre cette veste, celui dont nous essayons de tracer le portrait portait un petit manteau qui descendait à moitié de sa cuisse. Ce manteau était de drap cramoisi, couvert de taches et doublé de jaune vif. Or, comme il pouvait le passer d'une épaule à l'autre ou s'en envelopper à son gré, sa largeur contrastait avec son peu de longueur et offrait à la vue un étrange vêtement. Il portait au bras des bracelets en argent et à son cou un collier du même métal, sur lequel était gravée cette inscription. Wamba, fils de Witless, et le serf de Cédric de Rotherwood. Ce personnage était chaussé de sandales pareilles à celles de son camarade, mais au lieu de ces morceaux de cuir enroulés autour de ses jambes, celle-ci était encadrée dans une paire de guêtres dont l'une était rouge et l'autre jaune. Il était, en outre, pourvu d'un bonnet garni d'une quantité de sonnettes de la grosseur environ de celle que l'on attache au cou des faucons et qui cliquetait lorsqu'il tournait la tête de côté et d'autre. Or, comme il restait rarement une minute dans la même position, le bruit des clochettes était à peu près continuel. Autour du bord de ce bonnet était une bande de cuir épais, dentelée à son sommet comme une couronne à pointe, tandis qu'un sac allongé s'échappait du fond et descendait sur les épaules comme un bonnet de coton, comme une chausse à passer le café, ou mieux, la flamme d'un colbac de hussard. C'était à cette partie du bonnet de Wemba que l'on avait cousu les sonnettes, et cette circonstance, aussi bien que la forme de sa coiffure et l'expression moitié folle, moitié futile de sa figure, servait à le désigner comme appartenant à la classe des bouffons domestiques, ou railleurs, qu'on nourrissait dans les maisons des riches pour chasser l'ennui de ces heures languissantes qu'ils étaient obligés de passer dans leur château. Comme son compagnon, il portait un panier attaché à la ceinture, mais il n'avait ni corne ni couteau, parce que probablement on le regardait comme appartenant à une classe à laquelle il eût été dangereux de confier des outils tranchants. À la place de ce couteau, il était armé d'une latte semblable à celle avec laquelle Arlequin exécute ses prodiges sur nos modernes théâtres. L'aspect extérieur de ces deux hommes ne formait pas un contraste plus opposé que celui de leur mine et de leur maintien. Celui du cerf, ou de l'esclave, était triste et morne. Son regard était fixé sur la terre avec une expression de profond abattement qui eût pu passer pour de l'apathie si le feu, qui de temps à autre jaillissait de son œil rouge, n'eût attesté que sommeillait, sous l'apparence de ce morne anéantissement, la conscience de l'oppression et le désir de la vengeance. Tout au contraire, la mine de Wemba indiquait, selon la coutume de la classe à laquelle il appartenait, une espèce de curiosité vive et une impatience inquiète qui ne lui permettait aucun repos, et cela en même temps qu'il manifestait la plus grande vanité relativement à sa position et à sa bonne mine. Le dialogue auquel il se livrait avait lieu en langue saxonne, laquelle, comme nous l'avons dit, était universellement parlée par les classes inférieures, à l'exception des soldats normands et des serviteurs immédiats des grands seigneurs. Si nous donnions cette conversation dans l'original, il est plus que probable que le lecteur moderne en profiterait médiocrement. C'est pourquoi nous lui demandons la permission de lui en offrir la traduction suivante. « La malédiction de Saint-Witold soit sur ces damnés pourceaux !» dit le porcher, après avoir violemment soufflé dans sa corne pour rassembler la troupe éparse des porcs, lesquels répondirent à son appel sur des tons également mélodieux, mais ne s'empressèrent pas toutefois de quitter le banquet luxurieux de farines et de glands dont ils s'engraissaient, ou d'abandonner les bords marécageux du ruisseau, dans lequel plusieurs d'entre eux, à moitié enterrés dans la vase, étaient mollement couchés, sans se soucier autrement de la voix de leur gardien. « La malédiction de Saint-Witold soit sur eux et sur moi !» ajouta Goethe. Si le loup à deux jambes n'en saisit pas quelques-uns avant la tombée de la nuit, je ne suis pas un honnête homme. « À moi, Fangs ! À moi, Fangs !» cria-t-il du plus haut de sa voix, en se tournant vers un chien délabré, moitié loup, moitié chien couchant, et qui tenait le milieu entre le dogue et le lévrier, qui courait en boitant comme pour aider son maître à rassembler les porcs réfractaires, mais qui, en effet, par mésintelligence des signaux de son maître, par ignorance de son devoir, peut-être même par une malice préméditée, ne faisait que les chasser çà et là et augmenter le mal en paraissant vouloir y remédier. « Que le diable t'arrache les dents !» continua Goethe. et que la mère du mal confonde le garde de la forêt qui coupe les griffes de devant à nos chiens et les rend incapables de faire leur état. Wamba, lève-toi et aide-moi. Si tu es un homme, fais un tour derrière la colline pour prendre le vent sur eux. Et quand tu l'auras, tu pourras les pousser devant toi aussi facilement que tu ferais d'un troupeau d'innocents agneaux. »
« En vérité, » dit Wamba, sans bouger de l'endroit où il était assis, « j'ai consulté mes jambes à ce sujet, et elles sont tout à fait d'avis que si j'allais porter mon joli costume à travers ces affreux marais, ce serait un acte d'inimitié envers ma personne souveraine et ma garde-robe royale. C'est pourquoi je te conseille, ami Gert, de rappeler Fangs et d'abandonner à son malheureux sort ton troupeau d'animaux indociles, qui, soit qu'ils rencontrent des bandes de soldats, d'outlaws ou de pèlerins vagabonds, ne peuvent servir à autre chose qu'à être convertis en Normands avant l'aurore, à ta grande joie et satisfaction. »
Mais pour ça, devenir Normand à ma grande satisfaction ? S'écria Gert. Qu'entends-tu par ces mots, Wamba ? Car ma pauvre cervelle est trop lourde et mon esprit trop inquiet pour deviner des énigmes.
Eh bien, reprit Wamba, comment appelez-vous ces animaux grognards qui courent là-bas sur leurs quatre jambes ?
Des pourceaux, bouffon, des pourceaux, dit Gert. Le premier idiot venu, c'est cela.
Et pourceaux, c'est du bon saxon, dit le railleur. Mais comment appelez-vous la truie quand elle est écorchée et coupée par quartier et suspendue par les talons comme un traître ?
Du porc, répondit le pâtre.
Je suis heureux de reconnaître aussi que tous les idiots savent cela, dit Wamba. Or, un porc, je pense, est du bon normand français. De sorte que tant que la bête est en vie et sous la garde d'un cerf saxon, elle porte son nom saxon, mais elle devient normande, et on l'appelle porc quand elle est portée au château pour faire réjouissance au seigneur. Que dis-tu de cela, ami Gert ? Hein ?
Cette doctrine n'est que trop vraie, ami Wamba, de quelque manière qu'elle soit entrée dans ta folle tête.
Oh, je puis t'en dire davantage encore, fit Wamba sur le même ton. Vois ce vieux bailli, Lox. Il continue à porter son nom saxon tant qu'il est sous la garde de serfs et d'esclaves tels que toi. Mais il devient bif, c'est-à-dire un fougueux et vaillant français, quand on le place sous les honorables mâchoires qui doivent le dévorer. Monsieur Calf aussi devient monsieur Levaux de la même façon. Il est saxon tant qu'il lui faut nos soins et nos peines, et il prend un nom normand aussitôt qu'il devient un objet de régal.
Par saint d'Erstan ! S'écria Gert, tu ne dis là que de tristes vérités. On ne nous laisse à peu près que l'air que nous respirons, et on paraît nous l'avoir accordé en hésitant fort, et dans le seul but de nous mettre à même de porter le fardeau dont on charge nos épaules. Tout ce qui est beau et gras est pour les tables des Normands. Les plus belles sont pour leurs lits, les plus braves pour les armées de leurs maîtres à l'étranger, et ceux-là vont blanchir de leurs ossements les terres lointaines, ne laissant ici qu'un petit nombre d'hommes, qui aient soit la volonté, soit le pouvoir de protéger les malheureux Saxons. Que la bénédiction de Dieu soit sur notre maître Cédric. Il a fait son labeur d'homme en se tenant sur la brèche. Mais Réginald Front de Bœuf va descendre dans ce pays en personne, et nous verrons bientôt combien peu Cédric sera récompensé de sa peine. Allons, viens ici, s'écria-t-il de nouveau en élevant la voix. Taillot, Taillot, tu les as tous devant toi à cette heure, et tu les fais marcher lestement, mon garçon.
Gert, dit le railleur, je sais que tu me prends pour un fou, et tu ne serais pas si téméraire que de mettre ta tête entre mes dents. Un mot de ce que tu viens de dire contre les Normands, rapporté à Reginald Front de Bœuf ou à Philippe de Malvoisin, et tu serais un homme chassé, et l'on te verrait te balançant à la branche d'un de ces arbres, comme un mannequin, pour effrayer toutes ces mauvaises langues qui parlent mal des grands seigneurs et des hauts dignitaires.
« Chien !» s'écria Gurth. « Tu ne vas pas me trahir, j'espère, après m'avoir poussé à parler d'une façon si fatale pour moi. »«
Te trahir ?» répondit le bouffon. « Non, ce serait là le tour d'un sage. Un fou ne peut pas de moitié calculer si bien. Mais doucement, qui nous arrive ici »
dit-il en écoutant le piétinement de plusieurs chevaux qui en ce moment se faisaient entendre.
« Bon, que nous importe ?» répondit Gurth, qui venait enfin de rassembler son troupeau. Et, avec le secours de Fangs, le conduisait le long d'une de ces obscures avenues que nous avons essayé de décrire.
« Non, répondit Wamba, il faut que je voie les cavaliers. Peut-être viennent-ils du royaume des fées, avec un message du roi Oberon. »
« Que la peste t'emporte ! » s'écria le pâtre. « Peux-tu parler de telles choses pendant qu'une si terrible tempête de tonnerre et d'éclairs éclate à quelques milles de nous ? Écoute comme la foudre gronde, et pour une pluie d'été, jamais je ne vis goutte si large et si droite descendre des nues. Entendu ? Quoi qu'il n'y ait pas un souffle de vent, les grandes branches des chênes gémirent et craquaient comme si nous étions en plein ouragan. Tu sais jouer l'homme sage quand tu veux. « Crois-moi une fois, et rentrons chez nous, avant que l'orage entre en fureur, car cette nuit sera terrible. »
Wamba parut apprécier la force de ce raisonnement et accompagna son camarade, qui se mit en route après avoir saisi un grand bâton à deux bouts qui était étendu auprès de lui sur le gazon. Ce second Eumée se hâta d'arpenter la clairière de la forêt en poussant devant lui, avec le secours de Fangs, son troupeau aux cris discordants. Chapitre 2. Malgré les exhortations prudentes et les réprimandes réitérées de son compagnon, au bruit que faisaient les pieds des chevaux continuant de se rapprocher, Wamba ne put s'empêcher de s'amuser sur la route à chaque occasion qui s'en présentait, tantôt arrachant aux noisetiers une poignée de noisettes à moitié mûres, et tantôt détournant la tête pour regarder quelques jeunes paysannes qui traversaient le sentier. Il en résulta qu'au bout d'un instant, les cavaliers furent sur eux. Ces cavaliers formaient une troupe de 10 hommes, dont les deux qui marchaient en tête semblaient être des personnes de haute importance, à qui les autres servaient de suite. Il était facile de se rendre compte de la condition et du caractère de l'un de ces personnages. C'était évidemment un ecclésiastique du premier rang. Son costume était celui d'un moine de l'ordre de Cîteaux, composé d'étoffes beaucoup plus belles que celles que son ordre n'en admettait ordinairement. Son manteau et son capuchon étaient du plus beau drap de Flandre, tombant en plis amples et pleins de grâce autour d'une personne belle de forme, quoique un peu corpulente. Sur son visage, on voyait aussi peu les signes de l'abstinence que dans ses vêtements le mépris des splendeurs mondaines. On aurait pu dire de ses traits qu'ils étaient beaux, s'il ne s'était niché sous l'arcade de son œil le sentiment rare et épicurien qui indique l'homme des brûlantes voluptés. Sous d'autres rapports, sa profession et sa position lui avaient appris à commander à sa physionomie, qu'il pouvait réprimer à sa volonté, et rendre solennel selon l'occasion, bien que son expression fût celle de l'indulgence courtoise et de bonne humeur. Par dérogation aux règles de l'ordre et aux édits des papes et des conciles, les manches de ce dignitaire étaient doublées et parmentées de riches fourrures. Son manteau était fermé au col avec une agrafe dorée, et tout le reste de son costume semblait aussi embelli que l'est de nos jours celui d'une beauté cacresse, qui, pendant qu'elle conserve la robe et le costume de sa secte, continue de donner à sa simplicité un certain air de coquetterie et qui penche un peu trop vers la vanité du monde, par le choix des étoffes et surtout par la manière de les tailler. Ce digne prélat était monté sur une mule bien nourrie, dont les harnais étaient richement décorés
et dont la bride, selon la mode du jour, était ornée de sonnettes d'argent. Dans sa manière de se tenir en selle, il n'y avait rien de la gaucherie d'un moine. Au contraire, il étalait la grâce aisée et savante d'un habile cavalier. À la vérité, il semblait que la monture si humble de la mule, quel que fût son bon état et quelque bien dressée qu'elle fût à un amble agréable et doux, n'était employée par le galant prélat que lorsqu'il voyageait sur la route. Un frère, un de ceux qui se trouvaient à sa suite, menait, pour son usage en d'autres occasions, un des plus beaux genêts de race andalouse, que les marchands avaient à cette époque l'habitude d'importer à grands frais et risques pour l'usage des personnes riches et de condition. La selle et la housse du superbe palefroy étaient abritées d'une longue couverture qui tombait presque jusqu'à terre, et sur laquelle étaient brodées des mitres splendides, de riches croix et d'autres emblèmes ecclésiastiques. Un second frère laid conduisait une mule de rechange, chargée, selon toute probabilité, du bagage de son supérieur. Et deux moines de son ordre, d'une position inférieure, chevauchaient ensemble à l'arrière en riant et conversant, sans paraître se soucier aucunement des autres membres de la cavalcade. Le compagnon du prélat était un homme de 40 ans passés, maigre, fort haut de taille et musculeux, personnage athlétique à qui une longue fatigue et un constant exercice semblaient n'avoir laissé aucune des parties charnues du corps humain, car tout était réduit chez lui aux os, aux muscles et aux tendons, qui avaient déjà enduré 1000 fatigues et qui étaient prêts à en endurer 1000 autres encore. Sa tête était coiffée d'un bonnet écarlate garni de fourrure, de la forme de ce que les Français appellent mortier, par sa ressemblance avec un mortier renversé. Son visage était donc complètement découvert, et son expression avait de quoi inspirer le respect, sinon la crainte, aux étrangers. Des traits saillants, naturellement forts et puissamment accentués, étaient, sous le hâle d'un soleil tropical, devenus d'un noir d'ébène, et dans leur état ordinaire, semblaient sommeiller après le passage des passions. Mais la proéminence des veines du front, la promptitude avec laquelle s'agitaient à la moindre émotion sa lèvre et ses épaisses moustaches, annonçaient évidemment que la tempête n'était qu'assoupie et se réveillerait facilement. Ses yeux noirs, vifs et perçants, racontaient à chaque regard toute une histoire de difficultés vaincues, de dangers affrontés, et semblait porter un défi à toute opposition à ses désirs, et cela pour la seule jouissance de balayer cette opposition de son chemin en exerçant son courage et sa volonté. Une profonde cicatrice creusée sur son front donnait une nouvelle férocité à son aspect et une expression sinistre à l'un de ses yeux, qui, légèrement atteint par la même blessure, avait, tout en conservant une vue parfaite, légèrement dévié de la ligne de son voisin. Le costume de la partie supérieure de ce personnage ressemblait par la forme à celui de son compagnon, puisque, comme celui de son compagnon, c'était un manteau monastique. Mais sa couleur écarlate indiquait qu'il n'appartenait à aucun des 4 ordres réguliers. Sur l'épaule droite du manteau était découpée une croix en drap blanc d'une forme particulière. Ce vêtement cachait une chose qui, de prime abord, paraissait jurer avec sa forme, à savoir une côte de maille de fer avec des manches et des gantelets de même métal, curieusement plissés et entrelacés, et aussi flexibles aux membres que ceux que l'on fait aujourd'hui avec de moins rudes matériaux sur un métier à bas. Le haut des cuisses, que les plis de son manteau laissaient visibles, était couvert aussi de cottes de mailles. Les genoux et les pieds étaient défendus avec des plaques d'acier ingénieusement superposées les unes aux autres, et des guêtres de mailles, montant depuis la cheville jusqu'aux genoux, protégeaient les jambes et complétaient l'arme défensive du cavalier. À sa ceinture, il portait une dague longue et à deux tranchants.
seule arme offensive qu'il eut sur lui. Il montait, non pas une mule comme son compagnon, mais un vigoureux cheval de fatigue, pour épargner son vaillant cheval de bataille, qu'un écuyer menait derrière lui, tout harnaché pour le combat, avec un chanfrein et une armure de tête ayant une pointe sur le front. À l'un des côtés de la selle pendait une courte hache, richement ciselée et damasquinée. À l'autre, le casque empanaché du cavalier avec un capuchon de maille, et une de ces épées à deux mains dont se servaient les chevaliers de cette époque. Un second écuyer tenait droite la lance de son maître, à l'extrémité de laquelle flottait une petite banderole, ou drapeau, portant une croix de la même forme que celle qui était brodée sur le manteau. Le même portait, en outre, le petit bouclier triangulaire, assez large à son sommet pour protéger la poitrine, et, à partir de là, s'amincissant en pointe. Ce bouclier était recouvert d'un drap écarlate qui en voilait la devise. Ces deux écuyers étaient suivis de deux autres serviteurs, dont les visages bronzés, les turbans blancs et la forme des vêtements dénonçaient l'origine orientale. Tout l'aspect de ce guerrier, comme celui de sa suite, était sauvage et étrange. L'habit de ses écuyers était resplendissant, et les serviteurs sarrasins portaient autour de leur cou des colliers d'argent, et sur leurs bras et sur leurs jambes brillaient des bracelets et des anneaux du même métal. Les bracelets montaient du poignet jusqu'au coude, les anneaux descendaient du genou jusqu'à la cheville. Leurs vêtements, enrichis de soie et de broderies, indiquaient la richesse et l'importance de leur maître, et offraient en même temps un frappant contraste avec la martiale simplicité de sa propre mise. Ils étaient armés de sabres recourbés, ayant la poignée et le baudrier incrustés d'or, que surpassait encore le luxe de poignards turcs d'un merveilleux travail. Chacun d'eux portait à l'arçon de la selle un paquet de javelots d'environ 4 pieds de long, ayant des pointes d'acier aiguës, armes dont les sarrasins faisaient un usage habituel, et dont la mémoire se conserve dans l'exercice martial appelé le djérid, exercice qui se pratique encore aujourd'hui dans les pays orientaux. Les coursiers de ces deux serviteurs étaient aussi étranges que leurs cavaliers. Ils étaient de race sarrasine, arabes par conséquent, et leurs membres délicats, leurs petits pâturons, leurs queues flottantes, leurs mouvements faciles et élastiques, contrastaient d'une manière visible avec ceux des chevaux puissants et aux membres trapus dont la race se cultivait en Flandre et en Normandie, pour monter les hommes de guerre de cette époque dans toute la pesanteur de leurs cuirasses et de leurs cottes de mailles. Ces derniers chevaux, placés à côté des coursiers d'Orient, auraient pu passer pour la personnification de la matière, et les autres pour celle de l'ombre. La mine singulière de cette cavalcade attira non seulement la curiosité de Wamba, mais elle excita même celle de son compagnon moins frivole. Quant au moine, Gert le reconnut à l'instant même pour le prieur de l'abbaye de Jorvaux, connu à plusieurs milles à la ronde comme un amant enragé de la chasse, de la table. Et si la renommée ne le calomniait point, d'autres plaisirs mondains, qui se conciliaient plus difficilement encore avec les vœux monastiques. Cependant, les idées de l'époque étaient si relâchées à l'endroit du clergé, soit monastique, soit séculier, que le prieur Emer jouissait d'une réputation assez honnête dans le voisinage de son abbaye. Son caractère libre et jovial, ainsi que la facilité avec laquelle il donnait l'absolution aux pécheurs ordinaires, en faisait le favori de la noblesse et des principaux bourgeois, à plusieurs d'entre lesquels il était allié par la naissance, étant d'une famille normande distinguée. Les dames, surtout, n'étaient point portées à critiquer trop sévèrement les mœurs d'un homme qui était un admirateur avoué de leur sexe, et possédait tant de moyens de chasser l'ennui qui s'acharnait à pénétrer dans les salles où festinaient les maîtres
et dans les boudoirs des vieux châteaux féodaux. Le prieur prenait sa place dans les exercices avec plus d'ardeur qu'il n'appartenait à un homme d'église, et l'on convenait généralement qu'il possédait les faucons les mieux dressés et les lévriers les plus agiles de North Riding, circonstance qui le recommandait fortement à la jeune noblesse. Avec la vieille, il avait un autre rôle à jouer, et ce rôle, quand la chose était nécessaire, il le soutenait avec beaucoup de décorum. Sa connaissance des livres, quoique superficielle, suffisait à imposer à l'ignorance un certain respect pour le savoir qu'on lui supposait. En outre, la gravité de son maintien et de son langage, et aussi bien le ton sonore qu'il affectait en parlant de l'autorité de l'Église et du clergé, engageait chacun à le tenir presque en odeur de sainteté. La multitude elle-même, qui est la critique la plus sévère de la conduite des classes supérieures, compatissait aux folies du prieur Aymer. Il était généreux, et la charité, comme on sait, couvre de son manteau un grand nombre de péchés, et cela dans un bien autre sens que ne l'entend l'Évangile. Les revenus du monastère, dont une grande partie était à la disposition du digne prieur, tout en lui donnant les moyens de pourvoir à sa propre dépense, qui était très considérable, subvenait aussi aux largesses qu'il répandait parmi les paysans, et par l'application de laquelle il soulageait souvent la détresse du peuple opprimé. Si le prieur Aymer était un rude coureur de chasse, un convive obstiné, si on l'apercevait à la première heure du jour rentrer secrètement par la poterne de l'abbaye, au retour de quelque rendez-vous qui avait occupé les heures de la nuit, les hommes se contentaient de hausser les épaules et se réconciliaient avec ses irrégularités, en se rappelant que les mêmes licences étaient pratiquées par beaucoup d'autres de ses frères, lesquels étaient loin de posséder aucune qualité qui les expiât ou les rachetât. Le prieur Aymer, par conséquent, et aussi bien que lui, son caractère était donc bien connu de nos serfs saxons, qui lui firent leur rustique révérence et qui reçurent en échange son « Soyez bénis, mes fils ». Mais l'allure singulière de son compagnon et de sa suite fixa leur attention et excita leur étonnement, au point qu'ils purent à peine entendre la question du prieur de Jorvaux quand il leur demanda s'ils connaissaient quelque endroit dans le voisinage qui pût leur servir d'abri. Et cela, tant ils furent étonnés de l'apparence moitié monastique, moitié militaire du noir étranger, ainsi que de la mise singulière et des armes curieuses de ses deux serviteurs sarrasins. Il est probable aussi que le langage dans lequel la bénédiction fut donnée et les questions faites eurent un son désagréable, quoique intelligible, selon toute probabilité, aux oreilles des paysans saxons. « Je vous ai demandé, mes enfants, » reprit le prieur, élevant la voix et ayant recours à la langue franque ou au langage mêlé dans lequel les races normandes et saxonnes échangeaient ordinairement leurs pensées. « Je vous ai demandé s'il y avait dans ce voisinage quelque homme bienveillant qui, pour l'amour de Dieu et par dévouement à l'Église Notre Mère, donnerait pour une nuit à deux de ses plus humbles fils, ainsi qu'à leur suite, l'hospitalité et la nourriture. » Il dit ces paroles avec un ton d'importance consciencieuse qui formait un grand contraste avec les larmes qu'il jugeait à propos d'employer. « Deux des plus humbles fils de notre mère l'Église ?» répéta Wamba intérieurement. Mais tout fou qu'il était, ayant soin que sa remarque ne fût pas entendue. « Je voudrais voir ces sénéchaux, ces grands échansons et ces autres principaux. » Après ce commentaire muet sur le discours du prieur, il releva les yeux pour répondre à la question qui lui était faite. « Si nos révérends pères, dit-il, aiment la bonne chère et le doux logis, une course de quelques milles les conduira au prieuré de Brunsworth,
où leur qualité leur assurera un accueil honorable. Ou s'ils préfèrent passer une nuit de pénitence, ils n'ont qu'à reprendre là-bas à travers cette clairière sauvage. Elle les mènera à l'ermitage de Copmanhurst. Là, un pieux anachorète partagera pour une nuit avec eux l'abri de son toit et le bienfait de ses prières. » Le prieur secoua la tête aux deux propositions. « Mon brave ami, dit-il, si le cliquetis de tes grelots n'avait tant soit peu étourdi ton intelligence, tu saurais de reste que « clericus clericum non decimat », c'est-à-dire que nous autres prélats, nous n'abusons pas de l'hospitalité les uns des autres et que nous exigeons plutôt celle des laïcs, offrant ainsi l'occasion de servir Dieu en honorant et soulageant ses serviteurs élus. « Il est vrai, répliqua Wamba, que moi qui ne suis qu'un âne, j'ai néanmoins l'honneur de porter des grelots aussi bien que la mule de votre révérence. Mais j'avais toutefois imaginé que la charité de notre mère l'Église et de ses serviteurs pourrait, comme les autres charités, commencer par elle-même. « Trêve d'insolence, mon drôle, dit le cavalier armé, interrompant d'une voix forte et sévère le babil du bouffon. « Et dis-nous, si tu peux, la route de... Comment avez-vous nommé votre Franklin, prieur et maire ?»« Cédric, répondit le prieur, Cédric le Saxon. « Dis-moi, mon brave, sommes-nous près de sa demeure? Peux-tu nous en indiquer la route ?»« Et la route sera difficile à trouver. » répondit Gert, rompant pour la première fois le silence. « Et la famille de Cédric se couche de bonne heure. »« Bah, ne dites pas cela, drôle !» dit le cavalier armé. « Il lui sera facile de se lever et de fournir aux besoins de voyageurs tels que nous, qui n'entendons pas nous humilier à solliciter l'hospitalité que nous avons le droit d'exiger. »« Je ne sais pas, » dit Gert d'un ton rauque, si je dois montrer le chemin de la maison de mon maître à ceux qui demandent, comme un droit, cet abri que la plupart sont bien heureux de solliciter comme une grâce. « Discutes-tu avec moi, esclave ?» dit le moine soldat. Et piquant son cheval de l'éperon, il lui fit faire une demi-volte à travers la route, et en même temps, il leva une baguette qu'il tenait à la main, dans le but de châtier ce qu'il regardait comme l'insolence du paysan. Gert lui lança l'éclair de son œil sauvage et vindicatif, et avec un mouvement de fierté mêlé d'un reste d'hésitation, il mit la main sur le manche de son couteau. Mais l'intervention du prieur Emmer, qui poussa la mule entre son compagnon et le porcher, empêcha d'aboutir à la violence préméditée. « Doucement, frère brillant, par la Sainte Vierge. Vous ne devez pas vous croire en Palestine, dominant ces mécréants de Turcs et ces infidèles de Sarrasins. Nous autres, habitants du Nil, nous n'aimons pas les coups, si ce n'est ceux dont la Sainte Église châtie ce qu'elle aime. Dites-moi, mon brave, » reprit-il, continuant de s'adresser à Wamba et s'appuyant d'une petite pièce d'argent. « Quel est le chemin qui conduit chez Cédric le Saxon? Vous ne pouvez l'ignorer, et il est de votre devoir de diriger le voyageur, même quand son caractère serait moins sacré que le nôtre. » « En vérité, mon vénérable père, répondit le bouffon, la tête sarrasine du compagnon de votre révérence a chassé de la mienne, tant il lui a fait peur, le souvenir du chemin que vous demandez. « À ce point que je ne suis pas bien sûr d'y arriver moi-même ce soir. »« Bah !» dit l'abbé, « tu peux nous le dire si tu veux. Le révérend père a passé sa vie à combattre contre les Sarrasins pour recouvrer le Saint-Sépulcre. Il appartient à l'ordre des chevaliers du Temple, dont tu as peut-être entendu parler, si bien qu'il est moitié soldat, moitié moine. »« Et s'il n'est qu'à moitié moine ?» dit l'infatigable railleur. Il ne devrait pas être entièrement déraisonnable avec ceux dont il fait la rencontre sur la route, lors même qu'il ne serait pas pressé de répondre à des questions qui ne les concernent aucunement.
« Je pardonne à ta malice, » répliqua-t-il, « à condition que tu montreras le chemin de la maison de Cédric. »
« Eh bien, donc, » répondit Wamba, « que vos révérences continuent de suivre ce sentier jusqu'à ce qu'elles arrivent à une croix, aux trois quarts enterrées, et dont à peine il reste une coudée hors de terre. Puis, qu'elles prennent la route à gauche, car vous trouverez quatre routes à cette croix, et j'espère que vos révérences seront à l'abri avant la venue de l'orage. »
L'abbé remercia son sage conseiller, et le cortège, donnant de l'éperon aux chevaux, avança comme des hommes qui veulent gagner une auberge avant qu'éclate une tempête de nuit. À mesure que le bruit des chevaux s'éloignait, Goethe dit à son camarade « S'ils suivent ta sage indication, nos révérends pères ne gagneront pas Rotten Wood cette nuit. »
« Non, » répondit en ricanant le bouffon. « Mais ils pourront gagner Sheffield, s'ils ont du bonheur, et c'est un lieu qui leur conviendra tout autant. Je ne suis pas un si mauvais braconnier que de montrer aux chiens l'endroit où le daim est couché, si je ne veux pas qu'ils le chassent. »«
Tu as raison, » dit Goethe. « Il serait mal qu'Emer vit Madame Rowena, et il serait encore pis pour Cédric de disputer avec ce moine soldat, ce qui ne manquerait pas d'arriver. » Mais comme de bons domestiques, c'est à nous d'entendre, de voir et de ne rien dire.
Revenons aux cavaliers, qui ont eu bientôt laissé loin derrière eux les cerfs et qui continuent la conversation suivante dans cette langue franco-normande qu'employaient généralement les classes supérieures, à l'exception du petit nombre qui se vantait encore de son origine saxonne.
« Que signifie la capricieuse insolence de ces misérables ?» demanda le templier au moine de Cîteaux. « Et pourquoi m'avez-vous empêché de les châtier ?»«
Ma foi, frère brillant, » répliqua le prieur, « quant à l'un d'entre eux, il serait difficile de donner une raison. Un fou parle selon sa folie. Quant à l'autre manant, il est de cette race sauvage, féroce et intraitable, dont quelques-uns, comme je vous l'ai dit souvent, se rencontrent encore parmi les Saxons vaincus, et dont le plaisir suprême est de montrer leur haine contre leurs conquérants par tous les moyens possibles.
Je lui eusse bientôt rendu la courtoisie à force de coups, gronda Brillant. J'ai l'habitude d'avoir affaire à ces sortes de gens. Nos prisonniers turcs sont aussi féroces et intraitables qu'Odin lui-même aurait pu l'être. Et cependant, 2 mois passés dans ma maison sous la direction de mon maître, des esclaves les ont rendus humbles, soumis, serviables et obéissants. Croyez-moi, mon révérend, il faut vous mettre en garde contre le poison et le poignard, car ils se servent librement de l'un et de l'autre pour peu que vous leur en fournissiez la moindre occasion.
« Oui, » répondit le prieur Aymer, « mais chaque pays a ses us et coutumes. » Et outre que battre ce drôle ne nous eût procuré aucune information sur notre route, c'était le seul moyen d'engager une querelle entre vous et lui. Si nous avions trouvé notre route par ce moyen, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Ce riche Franklin est fier, impétueux, jaloux et irritable, adversaire de la noblesse et même de ses voisins, Philippe Malvoisin et Réginald Front de Bœuf, qui ne sont pas des enfants à combattre. Il soutient si fièrement les privilèges de sa race, et il est si orgueilleux de sa descendance non interrompue d'Erward, champion renommé de l'heptarchie, qu'on l'appelle universellement Cédric le Saxon. Il se vante d'appartenir à un peuple que beaucoup d'autres renient pour ancêtre, de peur de rencontrer une portion de vae victis, c'est-à-dire des sévérités imposées aux vaincus.
Prieur et mère, dit le templier, vous êtes un homme galant, docte dans l'étude de la beauté, et aussi expert qu'un ménestrel dans toutes les affaires qui concernent les arrêts d'amour. Mais il me faudra trouver beaucoup de perfection dans cette célèbre Rowena pour servir de contrepoids à l'abstinence et à la retenue que je dois observer, s'il me faut courtiser la faveur d'un manant aussi séditieux que son père Cédric. »
Cédric n'est point son père, répliqua le prieur. Elle est issue d'un sang plus noble que celui dont il se vante de sortir, et Lady Rowena n'est liée avec lui que par le hasard d'une parenté éloignée. Toutefois, il est son gardien, de son propre choix, je pense. Mais la pupille lui est aussi chère que si elle était son propre enfant. Au reste, vous jugerez vous-même bientôt de sa beauté. Et si la pureté de son teint et l'expression majestueuse mais douce de son œil bleu ne chassent pas de votre souvenir les filles de Palestine et leurs noirs cheveux tressés, ainsi que les houris du paradis du vieux Mahomet, je suis un infidèle et non un vrai fils de l'Église.
« Si votre belle tant vantée, dit le Templier, est mise dans la balance et ne fait point pencher le plateau, vous savez notre gageure. »«
Mon collier d'or, répondit le prieur, contre 10 barils de vin de Chypre. Et ils sont à moi aussi sûrs que s'ils étaient déjà dans les caves du couvent et sous les clés du vieux Denis, le cellerier. »
Et c'est à moi d'être juge, dit le Templier. Et je ne dois perdre que sur mon propre aveu de n'avoir vu de fille si belle depuis l'avant-dernière Pentecôte. N'est-ce point ainsi que le pari a été posé?
Prieur, c'est votre collier qui est en danger, et je veux le porter sur mon gorgerin dans la lice d'Achille de la Zouche.
Gagnez-le d'abord, et portez-le ensuite comme vous l'entendrez. Je m'en rapporterai à votre loyale réponse et à votre parole de chevalier et d'homme d'église. Cependant, mon frère, suivez, croyez-moi mon avis, et affilez votre langue à plus de courtoisie que votre habitude de dominer les prisonniers infidèles et les esclaves orientaux ne vous en a imposé jusqu'aujourd'hui.
Cédric le Saxon, si vous l'offensez, et celui-là est prompt à saisir l'insulte, est un homme qui, sans respect pour votre chevalerie, pour ma haute charge ou pour la sainteté de tous deux, débarrasserait sa maison de nous et nous enverrait loger avec les alouettes, fût-ce même à l'heure de minuit. Et surtout, veillez sur la manière dont vous regarderez Rowena, qui l'entoure des attentions les plus jalouses. S'il se sent alarmé le moins du monde de ce côté-là, nous sommes perdus. On dit qu'il a banni son fils unique de la maison paternelle pour avoir levé les yeux un peu trop tendrement sur cette beauté qu'il n'est permis, à ce qu'il paraît, d'adorer que de loin et dont on ne doit pas approcher avec d'autres pensées que celles que l'on porte à l'autel de la Sainte Vierge.
« C'est bien, dit le Templier, en voilà assez. » Je veux bien pour une nuit m'imposer cette contrainte que vous prétendez nécessaire et me comporter aussi humblement qu'une jeune fille. Mais quant au danger qu'il nous chasse, moi et mes écuyers, appuyés de Ahmed et d'Abdallah, nous vous garantirons contre cette disgrâce. N'en doutez donc pas, nous serons assez forts pour nous maintenir dans nos quartiers.
Il ne faudrait pas qu'il en vînt à ce point-là, répondit le prieur.
Mais voici la croix aux 3/4 enterrée du manant, et il fait si obscur ce soir qu'à peine si nous pouvons distinguer celle des routes que nous avons à suivre. Il nous a dit, je crois, de prendre à gauche.
Non, à droite, dit Briand, si je m'en souviens bien.
À gauche, certainement à gauche. Je me rappelle qu'il a indiqué la direction avec son épée de bois.
Oui, mais il tenait cette épée de la main gauche, et de cette sorte il a indiqué le chemin par-dessus son épaule.
Chacun soutint son avis avec une égale opiniâtreté. Ainsi qu'il arrive en pareil cas, on fit appel au serviteur. Mais il ne s'était pas trouvé assez rapproché de Wamba pour entendre la direction indiquée par lui. À la fin, Brian remarqua une chose qui d'abord ne l'avait point frappé dans le crépuscule.
« Voici un homme endormi, ou mort, au pied de cette croix. Hugo, remue-le avec le bout de ta lance. »«
Cela ne fut pas plutôt fait que la forme humaine se leva en s'écriant en bon français « Qui que tu sois, il n'est pas courtois de ta part de me déranger de mes pensées. » « Nous voulions seulement te demander, » dit le prieur, « le chemin de Rotherwood, demeure de Cédric le Saxon. » « J'y vais moi-même, » répliqua l'étranger. « Et si j'avais un cheval, je vous servirais de guide, car le chemin est difficile, bien que je le connaisse parfaitement. » « Tu auras et des remerciements et une récompense, mon ami, » dit le prieur. « Si tu veux nous mener sûrement jusque chez Cédric. » Là-dessus, il ordonna à l'un de ses serviteurs de monter son cheval demain et de donner celui qu'il avait monté jusque-là à l'étranger qui devait lui servir de guide. Leur conducteur suivit une route diamétralement opposée à celle que Wamba leur avait recommandé de prendre dans l'intention de les tromper. Ce sentier les conduisit bientôt plus avant dans la forêt. Ils traversaient plus d'un ruisseau dont l'approche était rendue périlleuse par les marais à travers lesquels ils coulaient. Mais l'étranger paraissait instinctivement connaître la terre la plus ferme et les endroits les plus sûrs. À force de précautions et de soins, il mena la petite troupe dans une avenue plus large qu'aucune de celles qu'ils eussent encore vues, et montrant un grand bâtiment d'une forme basse et irrégulière qui apparaissait à l'autre extrémité, il dit au prieur « C'est là-bas, Rottenwood, la demeure de Cédric le Saxon. » Cette communication rendit la gaieté au prieur, qui avait les nerfs délicats et qui avait éprouvé tant de transe et d'agitation en passant à travers ces marais et ces fondrières, qu'il n'avait pas encore eu la curiosité d'y faire une seule question à son guide. Mais maintenant, se sentant à son aise et se voyant sûr d'un abri, sa curiosité commença de se réveiller, et il demanda au guide qui il était. « Je suis un pèlerin qui revient à l'instant de la Terre Sainte, » répondit-il. « Vous eussiez mieux fait d'y rester pour combattre en l'honneur du rétablissement du Saint-Sépulcre, » dit le Templier. « C'est vrai, révérend chevalier, » répondit le pèlerin, à qui l'aspect du Templier paraissait parfaitement connu. « Mais lorsque ceux-là qui ont juré de rétablir la ville sainte sont rencontrés voyageant si loin du théâtre de leurs devoirs, comment vous étonner qu'un simple paysan comme moi renonce à la tâche qu'ils ont abandonnée ?» Le Templier allait faire une réponse en harmonie avec son caractère irascible. Mais il fut interrompu par le prieur, qui exprima de nouveau son étonnement qu'après une si longue absence, leur guide connut si parfaitement toutes les passes de la forêt. « Je suis né dans ces alentours, » répondit le guide. Et comme il faisait cette réponse, on se trouva en face de la maison de Cédric, que nous avons déjà dit se présenter sous l'aspect d'un bâtiment bas et irrégulier, contenant plusieurs cours et enclos, occupant un espace considérable de terrain, lequel bâtiment, bien que sa grandeur indiquât que son propriétaire était une personne riche, différait entièrement de ces hauts châteaux à tourelles dans lesquels résidait la noblesse normande et qui était devenu le style universel d'architecture dans toute l'Angleterre. Cependant, Rotherwood n'était pas sans défense. À cette époque de trouble, aucune habitation n'aurait pu l'être sans encourir le danger d'être pillé et brûlé avant le lendemain matin. Un profond fossé rempli d'eau, emprunté à un courant voisin, entourait tout l'édifice. Une double palissade, composée de poutres pointues fournies par la forêt voisine, servait de défense aux bords extérieurs et intérieurs de la tranchée. Du côté de l'occident, il y avait une entrée à travers la palissade, laquelle communiquait dans les défenses intérieures par un pont-levis et avec une entrée semblable. On avait pris quelques précautions pour mettre ces entrées sous la protection des angles saillants, au moyen desquels on pouvait, en cas de besoin, les flanquer d'archers et de frondeurs. Devant cette entrée, le Templier fit sonner vigoureusement son cor. car la pluie qui depuis longtemps menaçait commençait à tomber maintenant avec une violence extrême.